Plus tard au mois de mai, donc je l'ai déjà annoncé aussi, le 21 mai, dans l'après-midi, on aura un forum des membres, où là on va plutôt discuter de la vie de l'Église, du fonctionnement de l'Église, de l'organisation de l'Église. Mais s'il y a des questions qui concernent voilà, des points de vie chrétienne, des points de doctrine, ah ben, on peut profiter de quelques minutes pour y répondre. Comme je n'ai pas eu de retour, et juste pour vous laisser encore quelques minutes à réfléchir, je suis pas sans ressources, donc j'ai aussi prévu quelque chose dans l'évangile de Jean pour la suite de l'évangile de Jean. Mais ça peut être aussi chouette, voilà, de partir de quelques questions que les uns les autres peuvent avoir. Donc je vois, voilà. Donc on va prier, on va demander l'aide de Dieu, on va demander sa sagesse, on va demander qu'il nous parle maintenant, dans ce moment-là, et puis après, on va aller ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous confions en toi. Merci parce que, Seigneur, tu es le Dieu de la sagesse, le Dieu quand on vient à toi, on sait comment on peut vivre dans ce monde. C'est un monde qui est difficile à vivre. Il y a le péché qui est en train de gangréner l'humanité, gangréner la création, gangréner la société, le fonctionnement, mais pire que ça aussi, qui nous touche nous-mêmes, notre cœur, mon cœur à moi. Seigneur, notre cœur à nous tous. Et je voudrais, Seigneur, on veut venir à toi parce que tu as lavé nos péchés en Jésus-Christ, mais aussi tu veux nous enseigner comment vivre maintenant d'une manière qui te plaît, marcher d'une manière digne de l'Évangile, marcher d'une manière digne du salut que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Et du coup, tu nous impliques dans ça, tu veux qu'on soit en train de réfléchir à notre vie, qu'on fasse des choix qui sont nourris par ta parole, qui sont en pleine confiance par rapport au fait que c'est vrai, c'est toi qui gouvernes et diriges le monde et souverainement tu organises toutes choses et tu conduis toutes choses à une fin bien précise. Tu veux nous rassembler dans ta gloire. Alors, en attendant, Seigneur, en tout cas, on veut grandir dans la sagesse et on veut le faire ensemble. Donc je te prie que tu nous aides dans ces moments qui sont là maintenant devant nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Valérie, tu veux nous proposer une question et on voudrait essayer d'y répondre peut-être. Comment ça se passe, pardon, j'ai pas bien appris. Défunts, les défunts, de ceux qui meurent. Okay.
Parce que bon, ce débat, j'ai vécu avec mes frères et sœurs chrétiens. Mais bon, comme par exemple à l'église catholique, bon, je sais que ma sœur, bon, elle a souvent été dans les messages. Mais moi, bon, qu'est-ce que. Bon, la douleur est toujours là, on y pense toujours. Mm-hmm. Mais bon, au niveau des chrétiens évangéliques, bon, voilà, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de comment ça. Mm. Donc, c'est un débat pour moi qu'à chaque fois, je repose la question.
Ok.
Doit-on oublier complètement? Doit-on. Donc, c'est délicat pour moi. Mm-hmm.
Donc, voilà. Ok. Alors, je propose d'ouvrir la Bible et on va essayer de regarder un petit peu dedans différentes choses. Le premier passage qui me vient à l'esprit, c'est dans Thessaloniciens. Donc, je vais retrouver rapidement si c'est 1 ou 2 Thessaloniciens. Voilà, c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13. Et je vous invite à regarder des choses là. Et puisqu'on est en train de feuilleter dans la Bible, si vous avez un doigt de disponible ou un petit marque-page, je pense à un deuxième passage aussi qui pourrait être utile dans la réponse. C'est Hébreux au chapitre 13, donc le livre d'Hébreux. Voilà, ouvrez au chapitre 13 de Hébreux, puis Je regarderai le verset précisément tout à l'heure. Quelqu'un veut nous lire 1 Thessaloniciens 4, d'abord pour commencer, verset 13, et on va lire jusque 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18.
Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Merci. Ok, donc ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Regardons un petit peu sur ce passage. Et d'abord, la première chose que l'apôtre Paul il dit ici, c'est qu'il ne veut pas que justement les chrétiens, les frères et les sœurs, ils soient dans l'ignorance à propos de la mort et de ce qui se passe après la mort. Donc c'est une très bonne question en fait qui est là. Et on comprend pourquoi ça nous taraude, pourquoi ça nous inquiète, pourquoi c'est quelque chose qui est important à nos yeux, où on a besoin d'avoir des réponses, parce que quand on ignore quelque chose, c'est un sujet d'inquiétude, n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui va être demain. Alors si on est un peu insouciant, c'est pas un problème, mais si demain il y a des risques potentiels pour nous, pour notre vie, pour notre survie, alors du coup, ça devient une question extrêmement importante. Et l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint de Dieu, il veut pas que les frères et les sœurs soient dans l'ignorance en ce qui concerne la mort et en ce qui concerne ceux qui sont déjà passés par la mort. Donc c'est non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont déjà passés par cette mort. Parce que, tu vois, il dit, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres. Et ici, c'est important de bien comprendre, c'est comme les autres. Il n'a pas dit, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse. Et l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire, voilà, quelqu'un qui décède, c'est pas grave, ça nous concerne pas, on n'est pas touché émotionnellement. Non. Il dit, il y a de la place pour de la tristesse. Il y a de la place pour être touché émotionnellement, pour être triste, pour pleurer, pour avoir des périodes de deuil où on pense à cette personne et quand on y pense, d'un coup il y a la gorge qui serre, il y a des souvenirs qui remontent en mémoire et on est un peu confus quoi. On aimerait que cette personne soit de nouveau là. On sent la difficulté, la dureté de la séparation avec cette personne. Mais il nous dit, il veut pas qu'on soit dans la tristesse comme les autres. Et quand il dit les autres, vu qu'il a dit les frères et sœurs avant, il est en train de parler de ceux qui sont pas dans l'Église. Et il y a une manière dont le monde peut s'attrister du départ d'un frère, d'une maman, d'un grand-père, de quelqu'un, d'un membre de la famille. Mais cette tristesse-là, elle n'est pas la même que celle qu'il peut avoir dans l'Église. Alors il dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alors il faut essayer de comprendre, il y a une espérance qui s'attache à la foi chrétienne, il y a une espérance que les chrétiens connaissent, qui au-delà de la tristesse, ou malgré la tristesse, ou dans cette tristesse, leur permet de rester confiant dans le Seigneur, de ne pas être abattu par la tristesse. Et donc, Paul, il veut communiquer maintenant, il veut rappeler cette espérance chrétienne aux chrétiens de Thessalonique. Donc, il va développer ça un petit peu plus après, à partir du verset 14. Il dit, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et il continue un petit peu après, mais je vais m'arrêter là. Juste pour dire, n'est-ce pas réconfortant pour nous, s'il y a une possibilité d'être ignorant sur quelque chose, s'il y a une possibilité d'être un peu dans le flou, de voir ici Paul qui affirme très clairement les choses. Nous croyons. Et il peut le dire d'après la parole du Seigneur. Donc c'est l'enseignement qu'il est en train de dire ici, c'est pas quelque chose qu'il invente. Il dit, oh là là, je vois les Thessaloniciens, ils sont en train de devenir tristes, il y en a plusieurs qui sont morts, d'ailleurs, peut-être, puisque le contexte à Thessalonique, c'est qu'il y a la persécution, il y en a qui ont été emprisonnés, regardez dans Acte 17, Jason et d'autres, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont même morts à cause du Seigneur. Est-ce que le Seigneur n'a pas été capable de protéger les siens? Donc on imagine toutes sortes de situations qui peuvent embêter les chrétiens thessaloniques. Et Paul, il n'est pas en train de dire, ok, je vais vite faire un petit message bien-être, que je vais rafistoler en essayant de un peu élever les attentes des uns, les aspirations des uns des autres. Il s'appuie sur ce que Dieu lui-même a dit, sur ce que Jésus lui-même a dit. Donc ça, c'est béton, c'est sûr et certain. On peut croire un certain nombre de choses. Et la première chose, le premier regard qu'il nous demande d'avoir, c'est la croix. Il nous dit, regardons à Jésus-Christ. Donc si on veut avoir une espérance, si on veut savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre foi, il faut regarder à Jésus. Jésus, nous croyons que Jésus est mort. Nous savons, il y a des témoins qui sont là, qui attestent, qui ont vu Jésus sur la croix, qui ont vu qu'il est réellement décédé, qu'il a été enseveli pendant 3 jours. Pourquoi est-ce qu'il nous attire vers la mort de Jésus? Parce que c'est le sort de tous les êtres humains, n'est-ce pas, de mourir. Nous aussi, nous allons devoir affronter la mort un jour. Pourquoi est-ce que nous allons devoir affronter la mort un jour? Alors, on se rappelle que ça, c'est une des conséquences de l'entrée du péché. C'est une des conséquences de notre rébellion par rapport à Dieu. Ce que la Bible, elle appelle le péché. Le fait de ne pas avoir tenu compte de Dieu, de nous être déconnectés de lui, de la source de la vie. Non seulement spirituellement, nous sommes morts, mais en plus, la parole de Dieu, c'était le jour où vous en mangez, vous mourrez. Et physiquement, et spirituellement. Et la mort, elle est inquiétante parce que si on n'est pas en bon terme avec Dieu, si Dieu est fâché contre nous, toujours, alors on va mourir et rester pour l'éternité loin de lui. Alors Paul, il attire notre regard vers Jésus, mais Jésus est venu. Donc là, il y a un changement. Jésus est venu, il est mort. Il est mort à notre place, nous dit la bonne nouvelle de l'évangile. Lui qui a vécu la vie parfaite, qui avait tous les droits de paraître dans la présence de Dieu sans être inquiété, il a pris sur lui notre péché. Donc tout ce qui nous rendait indignes devant Dieu, tout ce qui ne nous permettait pas à nous, justement, à cause de nos fautes, de nos péchés, d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité, lui, il a pris sur lui à la croix. Et il est mort de la mort que nous devions vivre. Et il n'est pas resté mort, ça aurait été en fait le signe que oui, le péché était tellement grave qu'il n'y avait pas de solution. Même le Fils de Dieu, en prenant sur lui le péché, n'aurait pas résolu cette question-là. Mais Paul, il continue, nous croyons non seulement que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Et donc, la justice de Dieu a été satisfaite par le sacrifice de Jésus à la croix. Et ce que nous apprend la Bible, c'est que non seulement le péché est réglé, notre péché est effacé, mais en plus, nous recevons à notre crédit, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu, c'est donné, c'est reçu par la foi, nous recevons la justice parfaite de Christ. Tout ce que Christ a fait de bien, c'est-à-dire chaque seconde depuis sa conception jusqu'à sa mort sur la croix, son dernier souffle, tout ce qu'il est de perfection, nous est mis à notre crédit. Et quand Dieu nous regarde maintenant, quand nous avons mis notre foi en Jésus, il voit la perfection de Christ en nous. Et il est à l'œuvre maintenant pour nous rendre parfaits comme Christ, pour manifester cette perfection de plus en plus en nous. Et si on lutte encore pour un temps, un jour c'est sûr et certain, cette perfection, elle va être révélée, manifestée entièrement en nous, le jour du retour de Christ. Donc il attire d'abord notre regard sur Christ, Christ est mort pour nos péchés. Il y a quelqu'un qui a payé pour notre plus grand problème, notre séparation avec Dieu. Et son sacrifice était pleinement satisfaisant pour Dieu. Il a été ressuscité. Il est vivant maintenant. Il y a un être humain qui est à la droite du trône de Dieu, vivant, en train de régner sur le monde. Et cet être humain, c'est notre sauveur. C'est celui qui intercède pour nous. C'est celui qui nous aime. Et du coup, ça a un grand impact pour nous parce qu'il dit aussi, nous croyons aussi, alors, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il n'y a pas de doute, nous allons tous mourir. C'est la Bible qui appelle ça le dernier ennemi. Ce sera la dernière bataille que nous aurons à livrer sur cette terre. Mais ce n'est pas sans espoir parce que nous aussi, nous croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts dans la foi en Jésus. Donc tous les êtres vivants, on va ressusciter. Et ceux qui seront ressuscités avec Jésus-Christ pourront être pour toujours dans la présence de Dieu. Comment ça va se passer? L'apôtre Paul, il nous donne quelques indices. Donc on est au verset 15. « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Donc ceux qui sont morts ne sont pas encore entrés dans le paradis, si on peut dire comme ça, puisqu'ils ne nous ont pas devancés. Tout ça va se passer le jour du retour du Seigneur. Et donc si on est en vie à ce jour-là, on sera au même stade que ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont déjà morts, donc ça veut dire ils sont en attente, dans le repos par rapport à ça. Il y a des passages comme Luc au chapitre 16 qui nous montrent... vous connaissez cette histoire du riche et du pauvre Lazare qui est à sa porte et tous les deux meurent et le riche est déjà dans un endroit de tourment, mais c'est pas encore, le jugement n'a pas encore eu lieu, il n'est pas encore en enfer, mais le pauvre Lazare aussi est mort et il n'est pas non plus dans le paradis, mais il est en attente, il est apaisé et il attend justement le jour du retour du Seigneur, le jour où la perfection de Christ va être manifestée en lui. D'autres passages dans Apocalypse nous montrent aussi ça. Il me semble que c'est Apocalypse 9 où il y a les âmes de ceux qui sont morts, en particulier ceux qui sont morts martyrs pour le témoignage de Christ. Et on leur dit, restez tranquilles, c'est pas encore l'heure. On les revêt d'une robe blanche. Donc ils sont apaisés, ils sont dans un endroit de sécurité. Dieu entend leur appel et il dit, ok, je vais régler. Le cours du monde, la fin arrive, mais c'est pas encore maintenant. Patientez encore un peu. Donc ceux qui ont la foi sont en train de patienter maintenant dans leur mort. Pour une bonne chose, pour être avec nous au paradis. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Mais, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, donc il imagine l'hypothèse, d'accord, que le retour de Christ soit vraiment imminent, même du temps de son propre vécu, de sa propre vie à lui, l'apôtre Paul, d'accord. Donc il était vraiment en attente. Là, du coup, j'ouvre une petite parenthèse, c'est quoi notre attente? Est-ce qu'on est tellement conscient que le retour de Christ peut être vraiment rapide maintenant? Si c'était déjà, pour Paul, imminent, à combien plus forte raison c'est imminent pour nous, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, donc lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la promesse de la nouvelle création où Dieu habite, où tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus sont rassemblés en train de louer le Seigneur, de servir Dieu, de se servir les uns les autres dans la joie, dans la puissance que Dieu leur donne, et ça pour l'éternité. Donc ça, c'est l'espérance chrétienne. Et tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus sont au bénéfice de la mort et de la résurrection de Christ. Non seulement la résurrection physique, mais aussi la résurrection spirituelle, la vie nouvelle de l'esprit, la nouvelle naissance, si tu veux, qui est là dans le cœur et qu'on commence déjà à expérimenter maintenant. Et le but encore de l'apôtre Paul, c'est encouragez-vous donc. Alors j'espère déjà que toi, comme chacun d'entre nous, on est plus ou moins loin de ce que statistiquement on peut imaginer du jour de notre mort. Mais encourageons-nous, il y a une vraie espérance. Et Dieu n'a pas voulu qu'on soit dans l'ignorance par rapport à ça. Il est en train de nous dire, c'est sûr et certain, tu as mis ta foi en Jésus, eh bien tu seras pour toujours avec le Seigneur dans la nouvelle création. Dieu revient pour ça. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour régler le problème du péché dans le passé. Donc on est entre ces deux bornes, et entre ces deux bornes, il n'y a rien qui peut nous empêcher de vivre ça, d'expérimenter ça. Il est en train de parler à des frères, des sœurs. Alors tout ce qu'on vient de dire ici, par contraste, et c'est aussi une réalité dans la parole de Dieu, c'est que ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, on veut les appeler du temps de leur vivant, parce qu'après la mort, on ne peut plus leur parler. Après la mort, c'est fini, c'est trop tard. Et de nouveau, je te renvoie vers Luc au chapitre 16, il y a le riche qui dit, « Ouh là là, il est dans un endroit de tourment, il réalise que son frère, des membres de sa famille sont encore vivants, sont encore sur la terre telle que nous, on la connaît, telle qu'on est en train de la vivre, et dit, « S'il te plaît, Père Abraham, envoie quelqu'un pour qu'il puisse entendre la bonne nouvelle. » Et puis Dieu, quelque part au travers d'Abraham, dit, mais en fait, ils ont déjà entendu. Ils avaient déjà Lazare, ils avaient déjà des témoins autour d'eux. Et le riche insiste, il dit, non, mais si quelqu'un revient des morts, s'il y a quelque chose d'exceptionnel qui arrive, alors là, ils seront forcés de croire. Et il sait bien que, vraiment, c'est important de croire. Parce que sinon, il y a des tourments éternels qui attendent les personnes qui ne croient pas. Et la réponse, elle est la suivante. Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Il renvoie vers les Écritures, Moïse, les prophètes, la Bible telle qu'elle était disponible. Et il dit, « Même si quelqu'un ressuscite des morts, même un miracle comme ça, même si c'est attesté et visible par tout être humain, ce ne sera pas suffisant pour convaincre quelqu'un. » Et bien sûr, ça pointe un peu déjà vers Christ, qui justement est celui qui est ressuscité. Alors, le miracle de la résurrection et la réalité de la résurrection, c'est important. Paul, il vient de le décrire. Mais pour que quelqu'un croie, il faut que l'Esprit de Dieu applique cette vérité-là, applique cette croyance, cette foi dans le cœur de la personne. Et comment il l'applique ? Parce que cette personne entend le message de l'Évangile qui a déjà commencé à être annoncé par les prophètes. D'où notre responsabilité à nous, les vivants, de parler, d'annoncer l'Évangile autour de nous. Alors, il y a une espérance pour nous en tant que chrétiens, un encouragement à recevoir de tout ça. Je t'invite à méditer plus avant ce passage, peut-être, et les uns les autres à le faire. Je pense qu'il y a un aspect où on doit dire, affirmer, il n'y a pas de communication possible avec ceux qui sont déjà morts. Et si c'est un peu impliqué, on ne peut plus intervenir pour ceux qui sont déjà morts. Et donc la pratique catholique de faire des messes et d'essayer de gagner des jours en moins au purgatoire, ben, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais l'Église catholique affirme qu'entre l'enfer et le paradis, il y a un troisième lieu. On ne trouve nulle trace de ça dans l'Écriture, donc c'est une tradition qui est venue au fur et à mesure pour... Je pense assouplir une réalité qui est difficile, c'est vrai même pour nous, à comprendre la réalité d'un enfer, d'un lieu où on subit éternellement les conséquences de notre péché. Donc la doctrine catholique affirme qu'il y a un tel lieu comme le purgatoire où ceux qui n'ont pas suffisamment de mérite, mais qui n'ont pas fait non plus trop grave des péchés mortels, ils sont dans ce lieu-là et on peut leur communiquer, faire des virements internationaux, si tu veux prendre l'image, où on puise dans nos mérites. Donc on va faire des messes, on va payer des messes, on va faire des gestes, des actions pour essayer de leur créditer ce qui leur manque encore pour finir d'acheter le billet pour rentrer au paradis. C'est d'utiliser des images. J'espère pas trop caricaturer la pensée catholique, mais voilà, c'est un peu court ici. Ou alors on va puiser dans les mérites des saints, ceux qui auraient fait plus que ce qui était nécessaire pour leur propre salut, puisque dans l'Église catholique c'est un système de mérite, de points. Donc si tu as eu plus de points, est-ce que tu voudrais bien, Saint Antoine, Sainte Élisabeth, je ne sais pas quoi, me donner un peu de ce que tu as en plus dans ton trésor pour compenser ce qui me manque à moi. Mais ça, il n'y a aucune attestation d'un tel lieu, il n'y a aucune attestation d'un tel système, c'est contraire en fait à l'évangile. Celui qui met sa foi en Christ a la vie éternelle, c'est fait. Et c'est par les mérites de Christ et de Christ uniquement. Et c'est un cadeau, c'est une grâce qui nous est faite. Tu veux ?
On dit esprit, âme et corps. Est-ce que c'est les trois qui sont en latin ?
C'est une bonne question, hein ? Alors notre corps revient à la poussière.
Le corps est la même chose. Donc l'esprit, moi, je te dis. Comme on doit être éternellement avec Jésus.
Ouais. Et donc notre âme, c'est ce qu'on voit dans Apocalypse, dans Luc 16, notre âme, elle continue à vivre. Elle n'est pas tout à fait inconsciente des choses qui se passent. On voit même le riche, dans cette histoire de Luc 16, il perçoit qu'il y a un problème pour sa famille qui est restée. Lui, peut-être, il perçoit des choses, mais attention, il y a une ligne rouge ici. Ceux qui sont ici, dans ce monde, on ne peut pas nous communiquer dans l'autre sens. Attention, il y a une ligne bien marquée. Et on est averti de ne pas chercher à traverser cette ligne. Et s'il y en a qui disent qu'ils ont pu communiquer avec des personnes qui étaient déjà décédées, ce n'est pas avec ces personnes décédées qu'ils ont communiqué, mais avec des puissances spirituelles mauvaises. Et c'est vraiment abject aux yeux de Dieu. Ne faisons pas ça. Ne cherchons pas ça. Si on a pratiqué ça, il faut le dire à Dieu et demander aussi sa libération. Mais les âmes aussi, donc dans Apocalypse, je pense que c'est chapitre 9, si quelqu'un trouve la référence éventuellement, mais elles disent, mais il y a nos frères et nos sœurs qui continuent de souffrir de la persécution. Jusqu'à quand, Seigneur? Et donc il semble qu'il y a une sorte de forme de conscience là aussi de ce qui se passe. Mais c'est pas quelque chose qui trouble, c'est pas quelque chose qui est difficile à vivre. Ils sont rassurés, ils sont calmés. Et voilà. Donc le corps revient à la poussière. Quelque part, il est encore là, mais tout désintégré. L'âme, elle est en attente. L'âme et l'esprit. Pour notre partie immatérielle, elle est en attente. Et au jour du retour du Seigneur, alors les deux, ils sont recoller ensemble, si on peut dire comme ça. Notre corps ressuscite physiquement. Christ est ressuscité physiquement. Il y a quelqu'un en chair et en os avec encore les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds qui est actuellement, à cette seconde même où on parle, à la droite de Dieu, pleinement humain et pleinement fils de Dieu, en train d'intercéder pour nous, le médiateur, le seul que Dieu nous ait donné, celui qui nous a ouvert la voie. Donc pour nous, c'est une vraie espérance, c'est une vraie certitude aussi de pouvoir nous tenir un jour en chair et en os, ressemblant à ce qu'on est. Les disciples ont reconnu Jésus au moment de sa résurrection, et en même temps différent, ils ne l'ont pas reconnu aussi dans certains aspects. Semblable et en même temps différent, corps et âme et esprit ressuscités devant Dieu. Donc, ça c'est l'espérance. Attention, La communication ou chercher à faire des choses pour ceux qui sont morts, on peut pas. Et tu as mentionné le fait, on a du souvenir encore pour ces personnes. Et est-ce que c'est une mauvaise chose de se souvenir? Je voudrais dire que non, et en particulier en tant que chrétien. Et donc Hébreux chapitre 13. Alors, si vous me donnez juste une seconde. Ah, voilà. Au chapitre 13, donc au verset 7. Quelqu'un veut lire 7 ?
Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos annoncer la parole de Dieu, considérer quel est le bilan de leur vie et limiter leur foi.
Okay. Donc il dit « Souvenez-vous ». Alors il parle des conducteurs. Il parle des conducteurs dans l'église chrétienne. Il parle des frères qui avaient voilà, un impact pour enseigner, pour être modèle de ce que c'est l'évangile vécu auprès de la communauté. Je pense qu'on peut étendre ça aussi au fait que chacun on est appelé à refléter Christ, chacun on est appelé à vivre pour Christ. Et chacun dans sa sphère particulière, avec les dons qu'on a reçus, on modèle aussi la vie de l'évangile dans notre vécu. On est appelé donc à se souvenir. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, il dit pas « passez à la personne suivante ». Voilà, soyez toujours en train de passer. Non, il dit « souvenez-vous ». Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Et donc, quand on pense à des frères, Bernard Leduc par exemple, ou plus loin que ça, des frères, on va dire, célèbres, Hudson Taylor, des gens qui nous ont précédés, qui ont marqué par leur vie, des femmes aussi, d'accord, qui ont marqué par... dans leur vie, c'était clair qu'ils avaient la foi. C'est bon de se souvenir des personnes comme ça. C'est bon de chercher à examiner, tiens, comment est-ce qu'ils ont tenu? Quel est le bilan de leur foi, de leur vie? Et puis de les imiter alors, de suivre leur modèle. Je pense aussi à Paul qui dit à Timothée, mais souviens-toi de ta maman et de ta grand-mère. C'est par elles que tu as entendu les Écritures. Donc oui, souviens-toi, si ton papa ou ta maman t'a parlé de Dieu, souviens-toi de cette personne en particulier. Et respecte et honore cette mémoire-là. Pas comme pour devenir une idole, pas pour attendre qu'il y ait une influence qui arrive jusqu'à toi. Mais plutôt en regardant, voilà, très concrètement, quels étaient les choix qu'il a fait. Qu'elle a fait. Pourquoi? En réfléchissant à ça et en se disant, ok, mais là je vois la foi en action et je veux imiter ça. Et du coup, prier Dieu, ben voilà, aide-moi à ressembler. Pas, voilà, trait pour trait, mais dans ces intentions-là, dans cette motivation-là. À ceux qui m'ont précédé. Et dans ce sens-là, on n'oublie pas. On ne devrait pas oublier. J'espère pas oublier mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Certains que j'ai connus, certains que j'ai pas connus. Mes arrière-grands-parents, je les ai pas connus, mais ils étaient chrétiens, ils étaient impliqués dans l'évangile, dans la croissance de l'évangile. Et donc c'est une bonne chose. La Bible ne condamne pas ça. Est-ce que ça voilà, répond du coup? J'espère que ça t'encourage. J'espère que ça nous encourage. J'espère que ça nous rappelle l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut prier pour nous, pour Valérie en particulier, que ce qu'on vient de partager, ça puisse l'aider, clarifier des choses, que pour toi ce soit une source de joie et que quand tu dois en parler, l'expliquer à d'autres, tu puisses avoir aussi les bons mots pour transmettre encore cette espérance. Est-ce que quelqu'un veut prier pour ça?
Faire comprendre, Seigneur, à tous ces gens qui, justement,
Amen. Pendant qu'on priait, j'ai pensé à un truc pratique. C'est vrai, on va pas faire des messes, et peut-être, puisqu'on doit se souvenir, puisque il dit pas, si vous voulez vous souvenir, vous pouvez le faire, il dit, souvenez-vous. Donc c'est assez impératif, hein. Alors pourquoi pas faire ça dans ton calendrier ou dans ton agenda, mettre une alarme sur ton téléphone au décès d'un membre de ta famille qui suivait le Seigneur, ou de quelqu'un voilà que tu connais qui suivait le Seigneur et que tu veux particulièrement voilà te souvenir. Et ce jour-là, remercier Dieu pour le témoignage de cette personne en faveur de Christ, parce que tu as pu voir concrètement, en chair et en os, qu'est-ce que ça veut dire suivre Christ grâce à cette personne. Là, il y a matière à louer Dieu et de nouveau à faire monter une prière, non pas vers cette personne, mais vers Dieu lui-même pour le bénéfice du témoignage qu'on a eu. Et puis pourquoi pas aussi prendre un moment à réfléchir, ok, qu'est-ce qui m'a impacté dans cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle a compté pour moi? Et pourquoi dans ces choses-là je vois la marque de l'Évangile? Et alors, après, prier Dieu pour dire, ben, écoute, Seigneur, cet aspect-là de l'Évangile, j'aimerais aussi qu'il se développe encore davantage dans ma vie. Peut-être penser à soi aussi, tu vois, se mettre devant Dieu et dire, par exemple, je réfléchis, puisqu'on a parlé des paroles, mais ça m'a frappé parce que lui, il avait des paroles toujours encourageantes.
Oui, et...
Avoir des paroles comme ça, avoir des paroles encourageantes. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on a été au bénéfice des gens qui nous ont encouragés, qui ont trouvé toujours quelque chose à dire pour voilà, faire ressortir quelque chose de bien.
Oui, c'est des...
C'est des bons modèles, c'est des bonnes choses, on désire ça. Alors peut-être justement d'y réfléchir, à cette date anniversaire et après de se mettre devant Dieu et peut-être quelle générosité, oh là là, je me rappelle, il donnait son temps, il donnait de l'argent, il donnait son énergie, je sais pas, il avait toujours quelque chose à offrir, quelque chose à donner. Et donc quand on pense à ça, on peut se placer devant Dieu et dire voilà, je veux aussi grandir dans cette chose que ce frère, cette sœur m'a montré et ressemblait davantage encore à Christ, parce que finalement c'était Christ que cette personne essayait d'imiter, de suivre. Ça c'est une chose pratique, facile à faire, hein, utile. Je vais redonner la parole à Jean, à moins qu'il y ait... Ouais, je vais dire encore une chose. Je voudrais dire que il y a peut-être des questions comme ça que je m'étais dit, peut-être on aura le temps pour deux questions, voilà, une, et peut-être j'ai été long, désolé pour si c'est le cas. S'il y a des autres questions, peut-être pendant qu'on discutait, voilà, l'esprit, l'âme, le corps, ça c'est des bonnes questions, et des fois c'est des questions, on les balaye un peu, mais comme elles finissent toujours par revenir, elles nous embêtent, et en fait, et des fois Comme tout est connecté, mieux comprendre un certain aspect de notre vie chrétienne, mieux comprendre comment les différentes choses que Dieu nous a révélées sur lui-même, sur nous-mêmes, elles s'articulent ensemble. Mieux comprendre un aspect, ça va nous aider à mieux apprécier même des autres choses. Et peut-être ça va nous ouvrir des pistes d'explorer des choses qu'on n'avait jamais, des connexions qu'on n'avait jamais faites. Donc c'est une bonne chose de se poser des questions, c'est une bonne chose de chercher dans la parole de Dieu des réponses. Donc je voudrais vous encourager, ma boîte email elle est toujours ouverte, donc vous n'hésitez pas s'il vous plaît, à n'importe quel moment, et puis peut-être à d'autres occasions, je sais pas, pendant une agape ou peut-être pendant un autre culte comme celui-ci, on pourrait refaire la même chose et partir de questions qu'on peut avoir les uns les autres et s'encourager avec la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour l'encouragement, l'espérance certaine que nous avons en toi. Seigneur, bénis-nous encore pour le reste de notre temps formel ensemble, s'il te plaît. Amen.